Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. On peut dire que la campagne pour les élections européennes qui auront lieu fin mai a déjà commencé et le choix de ces 750 eurodéputés est bien sûr aussi un enjeu national pour les différents partis qui vont compter leur voix. Autant dire que la tonalité de certaines campagnes est déjà violente. En Pologne, en Italie, en Hongrie, le populisme fourbit ses armes. Ainsi, en Pologne, le parti Droit et Justice, PiS, au pouvoir, a décidé d'axer tout son discours sur la défense de la famille traditionnelle qui serait mise en danger par la théorie de genre, les gays et les cours d'éducation sexuelle à l'école. C'est une initiative prise par le maire de Varsovie, une charte pour éviter la violence envers les LGBT et créer un système de prévention, de signalement et de refuge qui sert de bouc émissaire. Reportage sur place de Thomas Giraudeau.
La charte locale est devenue un débat national avec les propos de Jarosław Kaczyński, le président du parti PiS au pouvoir. Lors d'un meeting dans le sud du pays, il s'est attaqué au document, considérant qu'il constitue une attaque contre la famille, l'accusant de sexualiser les enfants dès leur plus jeune âge et de détruire leur identité naturelle de fille ou de garçon. Jarosław Kaczyński relaie notamment l'analyse d'Ordo Iuris, cette organisation ultra-catholique influente au Parlement, croit savoir que les jeunes Varsoviens vont apprendre à se masturber et à connaître les relations homosexuelle dès la maternelle, tout cela sans demander l'avis des parents. Hubert Sobecki de l'association LGBT Miłość Nie Wyklucza, l'amour n'exclut pas, a participé à l'écriture du document et répond à ces fausses accusations.
Dans la charte, c'est un point très général. Il dit qu'il devrait y avoir des sortes de cours d'éducation sexuelle disponibles. Pas obligatoires, disponibles. Si les enfants ne veulent pas les suivre, eh bien, ils n'y iront pas. Ces cours devraient être basés sur des connaissances scientifiques, médicales, psychologiques, sur les standards de l'Organisation mondiale de la santé. Voilà ce qu'ils attaquent. Cela va introduire dans la tête des enfants quelque chose de dangereux. C'est la connaissance. Ils ne veulent pas que les enfants sachent des choses. Ils veulent qu'ils aient peur des choses. Car c'est plus facile de manipuler des gens qui ont peur.
Aux critiques de Jarosław Kaczyński s'ajoutent celles de nombreux membres de son parti, le PiS. En 2015, avant les législatives remportées par le parti ultra-conservateur, l'ennemi désigné, les boucs émissaires, c'était les migrants. Aujourd'hui, à l'approche des prochaines élections, ce sont les LGBT pour Hubert Sobecki.
C'est notre tour. On est utilisé de la même façon comme un outil pour la campagne. La différence, c'est que le langage qu'ils utilisent aujourd'hui est incroyablement obscène et absurde. Ils nous traitent de pédophiles, de déviants.
Certains politiciens ont en effet ouvertement lié homosexualité et pédophilie. Des violences verbales, des paroles aux actes. Il n'y a qu'un pas, selon la collègue d'Hubert, Ola Boczkowska.
Les mots ont vraiment un sens et ils encouragent les gens à faire des choses qu'ils ne feraient pas normalement. Ils pensent que c'est bon, c'est socialement acceptable de détester un groupe de gens, une communauté. Je peux les insulter, je peux leur cracher dessus, je peux même frapper quelqu'un. Ce type d'incident arrive en ce moment. Ici, à l'association, nous sommes en train de nous dire que nous allons installer plus tôt que prévu une nouvelle porte d'entrée, plus sécurisée. On craint d'être ciblés.
Certains amis d'Ola ont déjà quitté le pays pour se sentir plus en sécurité. Mirosława Makuchowska y songe aussi avec sa conjointe. Ses 12 ans de lutte au sein de la campagne contre l'homophobie l'ont épuisée. Jamais elle n'avait vu des propos aussi violents que ces dernières semaines.
J'ai été très forte. Je me disais au début que ce n'était qu'un tas de conneries. Mais en voyant de plus en plus de propos insultants, aujourd'hui j'ai juste envie de pleurer. Je peux voir comment mes collègues réagissent, ceux des autres organisations. Nous sommes fatigués parce que cela dure depuis plusieurs semaines. Et bien sûr, il y a une disproportion entre les médias de droite et les politiciens du PiS d'un côté et les ONG de l'autre. Nous avons comme une grande armée en face de nous et nous devons nous défendre. Mais nous ne sommes que 5. Comment voulez-vous y arriver ?
What can you do?
La Pologne est un des pays les plus homophobes d'Europe. Selon l'étude la plus récente, près de deux tiers des jeunes LGBT ont déjà pensé au suicide. La charte de Varsovie propose que chaque école dispose d'un référent, un adulte, qui suivra plus particulièrement la situation des jeunes LGBT. C'est la mesure indispensable pour Marek Blaszczyk, le président de l'association de parents d'enfants LGBT, Merodjice.
Je connais une histoire assez terrible. Ça s'est passé dans le lycée d'un village. Un garçon était homosexuel et quand d'autres camarades ont appris qu'il était gay, ils ont créé une page Facebook fermée pour dire que c'était une pédale. Eh bien, le garçon a fui le village. Il a terminé ses études à Varsovie et ensuite il est parti vivre à Londres.
Son association a envoyé une lettre ouverte au chef du PiS, Jarosław Kaczyński. « Ce ne sont pas nos enfants qui sont une menace, mais le récit auquel vous succombez », lui répond-il. Magena Lataviec a trois fils, les deux plus jeunes sont homosexuels.
Ces paroles alimentent la haine déjà très présente contre les LGBT. Mon fils a été agressé il y a 4 ans. Il tenait la main de son compagnon dans les rues de Varsovie et ils se sont fait attaquer par un groupe de jeunes gens. Ils ont été frappés, battus. Ils ont porté plainte, mais la définition d'homophobie n'existe pas dans la loi polonaise. Du coup, le juge a dit que c'était une bagarre classique.
Les fils de Magena sont partis vivre à l'étranger, le premier en Allemagne, le second en Corée du Sud. La fille, lesbienne de Marek Blaszczyk, attend, elle, les résultats des prochaines élections législatives à l'automne. Si le PiS repart pour 4 ans, elle quittera, elle aussi, la Pologne.
Et en Italie, le tandem de la Lega et du mouvement 5 étoiles ont trouvé un autre ennemi fédérateur, les Roms. Une campagne presque traditionnelle, aurait-on envie de dire, pour le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini. Pour en parler, on retrouve en Italie Franceline Beretti. Tout a donc commencé avec l'évacuation d'un camp Rom dans la capitale.
Il y a environ 3 semaines, une dizaine de Roms ont été transférés d'un centre d'accueil à un autre centre dans la banlieue est de la capitale, dans un quartier pauvre, délabré. Quand les habitants ont vu ces familles débarquer, ils ont vu rouge. Ils sont descendus dans la rue pour protester devant le centre social. Quelques partis néo-fascistes se sont joints à eux. Et finalement, après les violences et les menaces, les Roms ont dû évacuer les logements sociaux et rejoindre d'autres quartiers de la ville. Cet épisode a rapidement été récupéré dans la campagne pour les élections européennes, notamment par le ministre de l'Intérieur et vice-premier Matteo Salvini. Il s'est empressé d'annoncer la fermeture de tous les camps roms d'ici la fin de son mandat. Comme souvent, sans subtilité, qui veut s'intégrer et vivre normalement est le bienvenu, mais qui veut voler sera envoyé ailleurs, dit-il. Et il dresse une liste de situations scandaleuses entre les femmes qui, je cite, « tombent enceintes 18 fois pour ne pas aller en prison » et celles qui n'hésitent pas à mendier dans le métro avec leur bébé de 6 mois.
Et on peut dire, Franceline, que la question des Roms est un vieux cheval de bataille pour Matteo Salvini.
Oui, au tout début de sa carrière, déjà comme conseiller communal de Milan, il s'affichait devant ses camps roms et demandait le passage des bulldozers. La pelleteuse est d'ailleurs devenue un des symboles de Matteo Salvini, repris sur des autocollants et des t-shirts de la Lega. Cet été, en tant que ministre de l'Intérieur, il propose le recensement des Roms pour savoir combien ils sont et combien en situation illégale. Cela, il faut les expulser, dit-il, ceux qui ont la nationalité italienne, malheureusement, précise-t-il, il faut les garder. Ce recensement sur base ethnique est interdit par la Constitution italienne, donc il n'a jamais été appliqué. Mais en attendant, l'homme fort de l'Italie a obtenu ce qu'il voulait, faire parler de lui et envoyer une image de fermeté.
Merci Franceline Beretti à Milan. Et en Hongrie, le Premier ministre Viktor Orban a lancé sa campagne sur ses deux thématiques favorites, la lutte contre l'immigration et la politique familiale. Toute une nouvelle série d'aides, en apparence très généreuses pour les familles, sont censées s'appliquer dès le mois de juillet. Une vraie campagne de séduction dans un pays en déclin démographique qui est passé symboliquement sous la barre des 10 millions d'habitants. Reportage à Budapest de Florence Labruyère.
Bevándorlás helyett mi magyarok a gyermekvállalást támogatjuk. Nous, les Hongrois, on ne veut pas d'immigrants. On préfère soutenir les familles hongroises. Ce slogan omniprésent à la télévision et sur les affiches qui inondent le pays, c'est celui du gouvernement de Viktor Orban. Il vient de lancer un nouveau plan pour inciter les Hongrois à faire des enfants. Grâce à ce plan, Anna Maria et son mari, qui ont 3 garçons, pourraient avoir une réduction d'impôt de 3 000 euros.
Ces réductions d'impôts, c'est bien, ça va nous donner un bon coup de pouce. C'est une aide plus importante que les allocations qu'on avait jusqu'ici.
Nous voulons des enfants hongrois, a dit Viktor Orban. Toute une panoplie d'aides est prévue. Prêts immobiliers avantageux, aide à l'achat d'une voiture, exonération d'impôts sur le revenu pour les mères de 4 enfants. Emilia, employée de banque à la retraite, approuve ces mesures.
Moi, je n'ai eu qu'un enfant. Si on m'avait aidé comme ça, j'en aurais eu 3. Quand j'étais jeune, le régime nous prenait tout notre argent. Aujourd'hui, quand on a 3 enfants, on a une baisse d'impôt d'au moins 100 000 forints. Finalement, le 3e enfant entretient les 2 autres.
En Hongrie, il y a plus de décès que de naissances et la population baisse chaque année, ce qui inquiète Emilia.
Nous, les Hongrois, on risque de disparaître. C'est inquiétant.
Ilona, 67 ans, travaille encore comme coiffeuse à temps partiel. Parmi les mesures annoncées, il y en a une qui la réjouit particulièrement. Les grands-parents encore en activité et qui veulent garder leurs petits-enfants auront droit à une aide financière.
C'est vraiment bien. Les jeunes parents peuvent travailler pendant que les grands-parents reçoivent un peu d'argent pour s'occuper des petits. Dans ma famille, il y a beaucoup d'enfants et tout le monde est très content de toutes ces aides.
Autre mesure phare, si une femme de moins de 40 ans s'engage à avoir des enfants, elle aura droit à un prêt immobilier avantageux. Après le 3e enfant, sa dette sera totalement effacée. C'est l'État qui prendra en charge le remboursement de son prêt et des intérêts. Mais selon Tibor Zabetz, directeur d'un institut de sondage, tout le monde n'aura pas droit à ces aides.
Seul un petit cercle de gens va bénéficier de ces mesures. Il y a tellement de critères à remplir que seule la classe moyenne aisée peut les satisfaire. Il faut un emploi stable, avec un salaire d'un certain niveau. Moi, je pense que ces mesures vont concerner 1% des électeurs, c'est-à-dire qu'entre 80 et 100 000 personnes vont en profiter, pas plus. Bon, ce n'est pas rien, mais ce n'est pas ça qui va résoudre le problème de la baisse de la population, qui touche beaucoup de pays, et notamment la Hongrie.
Selon Tibor Zabetz, ces mesures natalistes sont avant tout un outil de marketing politique pour le parti du Premier ministre Viktor Orban.
C'est une opération de communication. Il s'agit avant tout de persuader les citoyens que les politiciens au pouvoir défendent les valeurs familiales. Et ces valeurs comptent pour les électeurs. Le gouvernement dit « Je soutiens la famille ». C'est un message très positif.
Cette campagne de promotion des valeurs familiales séduit les électeurs. Le parti de Viktor Orban est largement en tête des intentions de vote pour ce scrutin européen.
She promotes herself endlessly on social media as Nastia Rybka.
Sexe et politique, le mélange est souvent explosif. Il atteint des sommets avec Nastia Rybka, une Biélorusse de 29 ans qui défraie la presse russe. Accusée de proxénétisme, elle serait aussi au cœur de plusieurs scandales. Son portrait signé Étienne Bouche.
Sa notoriété, Nastia la doit à Alexei Navalny. L'année dernière, alors qu'il enquête sur l'élite politique russe, l'opposant à Vladimir Poutine exhume une vidéo diffusée sur le compte Instagram de la jeune femme. Navalny identifie Oleg Deripaska, le mania russe de l'aluminium, en compagnie d'un haut responsable politique. La scène est filmée par Nastia sur le yacht de l'oligarque. Navalny croit tenir une preuve de collusion politico-financière. Nastia, elle, semble comblée par ce coup de projecteur. En pleine agitation médiatique, celle que les médias étrangers qualifient pudiquement de « call girl » est arrêtée par la justice thaïlandaise. À Pattaya, la peu farouche Nastia dispensait, avec plusieurs ressortissants russes, des formations sexuelles. Jugée pour proxénétisme, elle passe près d'un an en prison. La justice thaïlandaise lui promet la libération si elle reconnaît sa culpabilité. Au mois de janvier, elle quitte le pays, mais elle est interpellée dans un aéroport de Moscou alors qu'elle se trouve en transit. En Russie, elle est accusée d'incitation à la prostitution, tout comme son acolyte Alexandre Kirillov, le coach de Pattaya se revendiquant « gourou du sexe ». La jeune femme a été remise en liberté, mais fait l'objet d'une interdiction de quitter le territoire russe. Mais l'attention que lui portent les médias ne s'explique pas seulement par sa réputation sulfureuse. La jeune femme avait promis des révélations sur l'implication de la Russie dans les élections américaines de 2016. Oleg Deripaska, qu'elle revendique fièrement à son tableau de chasse, est réputé proche de Paul Manafort, de l'ex-directeur de campagne de Donald Trump. Mais pour l'heure, pas le début d'une révélation. En conférence de presse à Moscou, Nastia s'est contentée d'annoncer la préparation d'un nouveau livre et l'enregistrement d'une chanson qu'elle promet légère et dansante.
Quelle est la nature de la laïcité turque? Quel lien le pouvoir et le religieux entretiennent-ils? C'est aussi à toutes ces questions que répond très concrètement le livre d'Ariane Bonzon, Turquie, l'heure de vérité, aux éditions Empreinte. Elle a expliqué à Anissa El-Jabri quel écho avait eu dans le pays toute l'affaire des caricatures de Mahomet en 2005. Ariane Bonzon.
C'est très intéressant cette histoire-là. Vous savez que la laïcité en Turquie est très particulière. C'est un contrôle de l'État sur la mosquée. Ce n'est pas une séparation de l'État et de la mosquée. Il y a eu quand même quelques manifestations, évidemment, pour protester contre ces caricatures, mais il y a eu de la part de l'État, d'Ankara, la volonté que les imams dans les mosquées calment un peu le jeu. Il y a aussi cette idée que nous, les Turcs, on se maîtrise plus que les Arabes. On ne va pas se laisser avoir, mais il y a quand même quelque chose, un ressentiment extrêmement fort qui s'est développé. Alors, les caricaturistes turcs de gauche ont repris quand même toutes ces caricatures. Et ce qui est très intéressant de savoir, c'est qu'ils prenaient beaucoup plus de risques que nos caricaturistes, nous, puisque dans la loi, dans le code pénal turc, il y a un délit de blasphème. C'est-à-dire que si vous touchez aux choses religieuses, eh bien vous êtes passible de plusieurs mois, plusieurs années de prison et d'une amende. Le délit de blasphème existe. Il n'existe pas depuis le pouvoir islamo-conservateur, mais depuis bien avant. La petite différence, c'est que autrefois, il ne fallait pas toucher à Mohammed, enfin au prophète, et maintenant, avec l'AKP, ça a été élargi à toutes les choses religieuses.
Et à la fin de ce chapitre, vous faites ce fameux retour sur « et aujourd'hui ».
Alors là, il y a eu un durcissement, et puis il y a eu un durcissement aussi pour Erdogan lui-même. C'est-à-dire que, autant avant, il y a eu des choses qui se sont écrites, des caricatures au début du mandat d'Erdogan, enfin au début de l'AKP, autant dans les dernières années, c'est devenu beaucoup plus sévère et beaucoup plus répressif. C'est pas le prophète, là, c'est Erdogan, mais il n'y a pas encore délit de blasphème vis-à-vis d'Erdogan, mais enfin, on ne touche pas à Erdogan.
Alors, c'est plus rare que ce sujet-là soit abordé dans vos reportages aussi. Vous creusez la question d'une forme de fascination que peuvent éprouver des franco-maghrébins en France pour la figure d'Erdogan. Qu'est-ce que vous avez trouvé?
Erdogan évoque trois sujets qui font écho dans nos villes, dans notre pays, auprès de la population française d'origine maghrébine en particulier, c'est-à-dire le problème de l'islamophobie, le problème de la colonisation et puis le problème d'Israël, enfin de l'attitude de la politique israélienne dans les territoires palestiniens. Ce sont trois sujets que les politiques français ne traitent pas toujours bien, avec lesquels ils sont gênés. Et en revanche, Erdogan fonce, c'est très bien ce qu'il faut dire. Et il y a un espace, effectivement, qui lui est laissé.
Beaucoup d'analystes ont un peu de mal à qualifier aujourd'hui le régime en Turquie. On a vu beaucoup circuler ce fameux mot valise de démocrature, contradiction de démocratie et de dictature. Vous faites une autre proposition.
Bon, démocrature, c'est un peu un jargon. Moi, j'ai souvent utilisé le mot démocrature. En plus, c'est une dictature au nom du peuple, si vous voulez. Bon, l'ouvrage, si vous voulez, donne d'abord la parole aux Turcs. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit eux qui racontent. Donc, je suis allée, effectivement, chercher ce que, à mon avis, le meilleur constitutionnaliste turc, qui est dans l'opposition d'ailleurs, et qui a eu à souffrir, et qui souffre toujours du régime Erdogan, donc il n'est pas soupçonné de complaisance. Je lui ai demandé comment vous qualifiez. Il l'appelle autocratie. Or, une autocratie, c'est la dictature d'un homme, hein. Je veux dire, c'est pas d'autre chose. Mais il dit que c'est autocratique, mais attention, il y a des tas de spécificités. Là où c'est intéressant, c'est que depuis juin 2018, Erdogan, ça y est, il a la constitution qu'il voulait. La plupart des hautes institutions, il les a à sa botte. Il n'y a plus de responsabilité devant le Parlement. Donc, normalement, il devrait être assuré. Or, il ne l'est pas. Et c'est en ça aussi que c'est une heure de vérité pour lui. C'est-à-dire que maintenant qu'il a tout à sa main, est-ce qu'il va pouvoir passer à cette seconde étape qui est quand même effectivement de construire son influence, l'influence de la Turquie dans le monde, en Afrique, dans les Balkans, de créer une nouvelle génération, parce que c'est ça, et c'est pour ça qu'il y a des éléments fascisants en Turquie aujourd'hui, c'est qu'il y a cette volonté de créer une nouvelle génération, une jeune génération, un homme nouveau un peu, et ça c'est le propre des régimes fascisants.
Une fameuse nouvelle génération pieuse, hein, c'est ça ?
Pieuse, sérieuse, travailleuse.
Turquie, l'heure de vérité d'Ariane Bozon est édité aux éditions Empreinte. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique podcast, et sur les réseaux sociaux. À demain.